Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. On est content de vous retrouver, ça faisait un petit moment, mais il s'est passé à Noize ce week-end des grandes choses et il nous a semblé utile d'en parler tous ensemble autour de cette table. Bonjour Noize.
Oui, bonjour Maïel, bonjour à tous.
Bonjour Guillaume.
Bonjour, bonjour à tous.
Qui est avec nous également, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que le Paris Saint-Germain joue mardi soir, demain soir.
Oui, sans doute ça.
Donc vous voulez nous en parler?
On va faire une petite demi-heure dessus. Oui.
On va en parler plutôt en fin d'émission.
Voilà, ouais.
Et si vous voulez, on va plutôt accueillir notre invité, qu'on connaît un tout petit peu à Jour de Galop, qui s'appelle Robert Nataf. Bonjour Robert.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Que nous vaut la joie de vous avoir autour de ce micro aujourd'hui?
Bah, simplement parce que j'étais forcé de venir ici.
Ah, c'est pour ça, donc vous n'aviez pas le choix. Non, plus sérieusement, vous êtes le manager de l'écurie Heath Smith et qui est associé dans Ramatuelle. Et on vous a invité pour parler, évidemment, des 1000 Guinées qui avaient lieu hier. Vous connaissez tous le scénario. Ramatuelle a occupé la tête de la course à 200 mètres du poteau. Elle est restée première jusqu'à environ une dizaine de mètres. Et à une dizaine de mètres, il y a deux autres pouliches qui lui sont tombées dessus. Elle termine troisième, ce qui est magnifique d'être troisième des Guinées, Robert. Mais quand on a mené et quand on a espéré gagner, forcément, c'est plus difficile. Alors, comment on est ce matin?
J'ai très très mal à la tête. Très 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 mal à la tête. Et la deuxième réflexion que je fais, c'est que le mile de Newmarket ne sont pas les 1600 mètres de Longchamp. Le mile, c'est 1609 mètres. Et 9 mètres avant le poteau, Ramatuelle était en tête.
Oui, c'est ce qui vous a manqué d'être sur un vrai mile.
Voilà.
Il y a ensuite le profil particulier de l'hippodrome qui monte et qui descend avec ces espèces de bosses. Est-ce que, justement, après la course, quand vous parlez avec le jockey, avec l'entraîneur, est-ce que ça fait partie des choses dont il vous parle?
Bah, c'est-à-dire que c'est vraiment un parcours absolument incroyable. Il suffit, pour bien le mesurer, de se mettre sur la piste, comme je l'ai fait, et de regarder la piste dans son entièreté. Et on voit, c'est pratiquement un parcours de motocross, quoi. Et le fameux dip est visible à l'œil nu. Visible à l'œil nu, et on comprend que ça soit une piste très, très compliquée. On comprend aussi que les jockeys aient beaucoup de difficultés à négocier ce dip. Et on comprend également que les chevaux puissent subir ce casse-pattes dès que la remontée les 200 derniers mètres.
Anne-Louise, c'est bien ce qui est arrivé à Ramatuelle, puisqu'on voit qu'elle prend la tête et qu'elle s'élance, elle profite un peu d'un passage légèrement en descente.
Oui, c'est ça. On a en effet la descente, donc on prend normalement de l'élan pour ensuite pouvoir passer la montée. Donc, par la force des choses, il y a une pouliche devant vous qui a craqué. Donc, Ramatuelle est partie quand même assez tôt, j'ai envie de dire. Elle avait peut-être pas la pointe pour tenir en effet jusqu'au bout, surtout avec ses 209 mètres et quelques en montée. Mais oui, c'est quand même très particulier. Enfin, tous les chevaux ne peuvent pas faire Newmarket. C'est une histoire à la fois de tenir ces 1609 mètres et quand même une histoire un peu de tenue parce que la montée casse les jambes. Et voilà, c'est assez typique de ces classiques anglais, j'ai l'impression. On sait que Epsom, c'est aussi une grosse question d'équilibre des chevaux. Donc c'est ce qui fait le charme des classiques britanniques.
Pour autant, avec la vitesse naturelle qu'elle a, elle a pris un dos, elle est bien placée. Racontez-nous comment ça s'est passé justement en sortie des stalles. Oui, c'est vraiment, enfin, le début de course est assez parfait.
Bah, tout le déroulement de la course jusqu'aux 10 derniers mètres est absolument parfait. Elle est très très bien sortie des boîtes comme elle le fait habituellement. Elle a trouvé ce dos un petit peu miraculeux.
Oui, miraculeux.
Ça l'a évité de tirer parce qu'elle a quand même une tendance à vouloir tirer parfois. Et elle a tout le parcours, elle a suivi ça. Il se trouve que le leader a cédé assez rapidement aux 500 derniers mètres. Et là, Aurélien Lemaître a commencé à accélérer de façon un peu brutale. Et on a pu, elle a pris ces deux longueurs qu'elle a gardées pratiquement jusqu'à 100 mètres du poteau. À 100 mètres du poteau, elle a encore une longueur et demie d'avance.
Guillaume,
dimanche, si elle ne gagne pas, elle a quand même prouvé qu'elle tenait. Enfin, il existait quand même un petit doute encore après l'imprudence sur sa tenue. Vous en pensiez quoi? Vous étiez confiant sur le fait qu'elle allait tenir?
Il y avait quand même toujours de toute façon un point d'interrogation compte tenu du profil de la piste, mais je pense que sa véritable aptitude, c'est 1400 mètres.
Oui, donc on va en parler peut-être après, mais c'est des profils de course plus comme le Jean Prat ou que le vrai mile.
C'est Le mile de Newmarket est un mile dont tout le monde dit que c'est un mile de vitesse, mais c'est aussi un mile très éprouvant.
Stiff mile, hein.
C'est un stiff mile. C'est un stiff mile.
Expliquez-nous, stiff mile.
Les stiff miles, c'est ces miles qui sont vraiment exigeants, qui font parler la tenue. Donc, par exemple, je pense qu'elle pourrait faire des 1600 mètres, mais sur des miles plutôt coulants ou des pistes ligne droite plates. Après, là, c'est vrai que le stiff mile de Newmarket qui fait parler la tenue en finissant.
Il suffit de regarder la course de Tam Fana, qui est une vraie stayer.
Oui, qui vise le Diane, on le rappelle.
Qui vise le Diane. Et qui a fait un parcours... si elle a un parcours un peu plus fluide, je pense qu'elle doit gagner.
Effectivement, mais par exemple, vous aviez la possibilité, quand on court les Guinées aussi, de courir la poule d'essai. Alors on le rappelle, à Longchamp, parcours avec tournant, les chevaux prennent un bol d'air. Pourquoi est-ce que vous aviez privilégié les Guinées par rapport à la poule?
C'est surtout la ligne droite. C'est pour une raison évidente d'aptitude à la ligne droite. Je ne suis pas encore tout à fait sûr qu'elle puisse savoir faire les tournants. La seule fois où elle a couru le tournant, c'était dans le Prix Pirette, où elle a toujours galopé dans le tournant sur la mauvaise jambe, et ça lui a vraisemblablement coûté la victoire.
Ouais, elle a été battue aussi par un bon poulain.
Pas mal.
Pas mal.
Donc,
on reverra dimanche, normalement.
Pas de regret.
Non, pas de regret sur ce fait-là, non. Surtout que, en plus, la poule d'essai, c'est quand même une belle loterie en fonction du numéro de corde.
En fait, ce qu'il vous aurait fallu, c'est que Longchamp soit encore en travaux et que la course ait lieu, la poule d'essai ait lieu en ligne droite à Deauville.
Ça, c'est le grand regret.
Ça aurait été parfait. Il y en a beaucoup qui le regrettent. Alors donc, on a parlé de cette fin de course tout à fait dramatique. Vous êtes en tribune avec tous vos camarades. Il y a une vidéo d'ailleurs qui a été faite par les organisateurs de la course.
Je suis pas vraiment très fier.
On vous voit un peu comme ça vous effondrer, mais vous n'êtes pas le seul dans l'entourage. Tony Parker fait un mouvement de la main là de d'exaspération. Bon. Je suppose que vous avez dû quand même crier. Vous avez quand même.
Crié très fort, surtout quand je veux dire à 100 mètres du poteau, on est sûr de gagner quoi. La question n'est même pas et c'est dans les derniers mètres qu'on voit fondre sur nous à la fois El Malcar et Porta Fortuna et Tam Fana.
Oui, Tam Fana qui aurait...
Ce que je pense, c'est que 10 mètres avant, on a gagné, mais 10 mètres après, je pense qu'on est 6e.
Oui.
Et Ilang Ilang aussi qui finit bien.
Oui. Tellement ça s'est resserré sur la fin. Est-ce que malgré tout, est-ce que vous avez été tenté de faire un parallèle avec ce qui vous était arrivé dans le prix Morny, ou est-ce que les choses ne sont pas comparables?
C'est quand même un tout petit peu comparable. C'est quand même un tout petit peu comparable. Et
mais c'était 1200 mètres.
C'était 1200 mètres, mais je pense que Ramatuel a besoin de faire le trou et de pouvoir vivre sur cette influence sans qu'on puisse venir la menacer. Je ne suis pas sûr que chaque fois qu'elle vient à la lutte, elle ait autant de courage que de brillance.
J'ai l'impression que peut-être aussi qu'elle n'a pas une pointe qui peut durer sur 400 mètres. Donc elle a vraiment une pointe très acérée, mais il faut peut-être venir au dernier moment.
À mon avis, elle a une pointe de 300 mètres. Quoi. 300 mètres maximum.
Mais est-ce qu'il aurait fallu essayer de la cacher encore plus longtemps? Est-ce qu'il aurait fallu... Ou est-ce qu'elle accepterait d'abord de rester cachée plus longtemps?
Ça, on ne sait pas. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle sort toujours très très bien des boîtes et qu'elle a besoin d'être aux avant-postes. Et c'est sa caractéristique. On ne peut pas aller contre sa nature non plus.
Mais il faudrait peut-être lui mettre une leader qui fait 1000 mètres à fond ou je ne sais pas. Mais...
Oui, on peut envisager cette possibilité. Oui.
En mettant une sprinteuse qui l'emmènerait, Louise, parce qu'on ne voit pas trop qui peut aller plus vite qu'elle. Effectivement, sur cette distance-là, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de vitesse.
Ce que je pense déjà, c'est que je pense que c'est la pouliche la plus rapide d'Europe aujourd'hui. Même si les résultats montrent pas exactement cette réalité, je pense qu'elle a une vitesse de croisière absolument formidable.
Très élevée pour une mileuse en tout état de cause.
Oui, enfin une mileuse de mile coulant.
De mile coulant, effectivement. Si on revient un tout petit peu avant, parce qu'on en a parlé ensemble en préparant cette émission, vous avez été frappé aussi par l'accueil à Newmarket et par la qualité des infrastructures, par...
Les courses à Newmarket, c'est un autre monde. Et pas seulement à Newmarket, d'ailleurs, mais spécialement à Newmarket, c'est un autre monde. Moi, j'ai été frappé par, d'abord, l'ambiance très festive dans les courses, l'accueil qui est fait pour les étrangers. On a été traités comme des rois. Je ne suis pas sûr que, en France, quand les étrangers viennent, on les traite de la même manière. J'ai remarqué aussi une chose qui était absolument frappante, c'est le nombre de femmes qui viennent aux courses, qui s'habillent, qui viennent dans un esprit festif. Elles ont tout d'un verre de bière à la main, mais ça contribue au côté festif. Et il y avait un monde, un respect de l'étranger qu'on ne trouve pas ailleurs. Et j'étais vraiment, je ne parle pas de tout le décorum, la qualité des infrastructures, du rond de présentation, du pré-rond, de la gentillesse.
Il faut dire qu'il y a trois ronds. Hein,
il y a trois ronds.
Ça, c'est quand même un truc assez dingue. Quand on se souvient que quand France Gallo a essayé d'imposer un rond de sellage à Chantilly, une sorte de pré-rond pour permettre au public de voir les chevaux avant, il y a eu une levée de bouclier des entraîneurs qui ont dit que ça rendait les chevaux fous et qu'ils supporteraient jamais ça, et ce pré-rond a été très rapidement abandonné. Là, il y en a trois. Expliquez-nous les trois ronds. Alors.
Il y a le premier rond, c'est qui reçoit au moment où les chevaux arrivent au champ de course, ils tournent, là ils sont à l'abri des regards, ils tournent très tranquillement. Ensuite, il y a un pré-rond qui est à l'endroit où on selle les chevaux, il y a les stalles pour serrer les chevaux, et une fois qu'ils ont sellé les chevaux, ils tournent, et ils sont devant tout le public, et ensuite il y a le grand rond de présentation, qui est majestueux, etc. Et il y a un contact entre le public et les chevaux, dont on a besoin pour le spectacle, et pour les joueurs aussi, ils ont besoin de voir les chevaux.
Oui, sur ce sujet du pré-rond, on selle les chevaux, on les voit tourner avant le rond officiel. Cheltenham, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez les voir, les chevaux se faire sceller, tourner. Et même Epsom, ça fait pas un peu partie du charme du derby.
Ascot aussi.
Mais ce serait quand vous allez voir le derby d'Epsom et que les chevaux sont scellés pour le coup dans le rond de présentation. Enfin, vous voyez Aidan O'Brien qui prend tout le soin de sceller tous ses chevaux devant le public au milieu du rond un par un. C'est quelque chose d'assez incroyable.
Effectivement, et est-ce que vous avez noté, parce que vous avez une pouliche qui est assez électrique, enfin qui a quand même beaucoup beaucoup d'influx, est-ce que vous avez noté que ça l'avait perturbée?
Elle n'a pas bougé une oreille de toute la période de préparation, puisqu'entre le moment où elle est arrivée au champ de course jusqu'au moment où elle est sortie sur la piste, il a dû se dérouler à peu près une heure. Elle a été toujours entourée, elle n'a pas bougé une oreille. Elle avait son bonnet rouge, mais elle n'a pas bougé une oreille.
Donc ça l'a pas plus perturbé que ça finalement.
Exactement.
Ça fait partie aussi du test. Enfin, on va parler peut-être plus tard du Kentucky Derby, mais le test du Kentucky Derby, c'est cette arrivée sur la piste devant les tribunes, c'est d'être scellé devant tout le monde. C'est ce qui fait aussi le test de ces classiques-là, de la sélection, c'est à la fois sur la piste et mentalement.
Mais alors pourquoi, Anne-Louise, en France, les entraîneurs critiquent par exemple le simple fait qu'il faille faire un défilé dans les belles courses?
Il faut leur demander.
Non, mais c'est étonnant parce que le défilé, c'est pas plus stressant que d'avoir trois ronds, quoi.
Oui, mais après, on sait que certains chevaux n'arrivent pas très bien à gérer et eux vont se tendre. Donc après, est-ce qu'on considère que ça serait injuste envers les parieurs de faire, entre guillemets, exploser un cheval dans un défilé ou dans un pré-rond alors qu'il arrive grand favori? Est-ce que quelque part, on dit ça fait partie du test de la sélection et il faut passer ce test? C'est beaucoup de débats. Je ne sais pas s'il y a une réponse unanime sur le sujet.
Je pense qu'on oublie une chose de base, c'est que les courses sont un spectacle et qu'il y a une espèce de dramaturgie dans les courses. Et je pense que c'est le fait de mêler les chevaux, la préparation au public, ajoute à la dramaturgie, ajoute à l'excitation et ajoute au spectacle.
Oui, parce que à nous, les gens ont quand même payé deux fois. Ils payent leur billet d'entrée sur l'hippodrome. Et Dieu sait qu'en Angleterre, il est plus cher qu'en France. Et ils payent aussi en pariant. Donc c'est normal qu'ils en aient aussi pour leur argent. Et c'est vrai que ça fait pas les coulisses. Enfin, les coulisses, on peut considérer que le rond est une forme de coulisses. De coulisses ouvertes au public, c'est quand même un des gros plus de notre sport. C'est comme si on vous laissait des baies vitrées dans les vestiaires de foot et qu'on pouvait regarder les trucs. C'est quand même un énorme atout pour notre sport. Nous qui sommes toujours en train de faire des complexes par rapport au foot, au rugby, au tennis, là on a l'atout d'avoir le rond de présentation qui est un endroit où les athlètes sont nus devant nous en quelque sorte avant de faire leur effort.
Oui, c'est un moment très, très important. Donc, après, je pense aussi au Japon, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas l'aspect pré-rond, mais les chevaux rentrent dans le rond, mais une demi-heure avant la course. En gros, dès que les chevaux de la course précédente partent en piste, il y a déjà les chevaux de la course suivante dans le rond et les gens peuvent rester massés pour regarder les chevaux tourner, mais pendant une demi-heure, c'est excessivement long, mais ça fait partie de ce test et le public, je pense, apprécie de voir tourner les chevaux et de les regarder et même pour les paris, quelque part, c'est certainement un moment important.
Ce que je voudrais dire, une chose, c'est qu'il y a une nouvelle gouvernance à France Gallo aujourd'hui et cette nouvelle gouvernance, on peut lui faire confiance, mais ils ont besoin de s'imprégner et de s'inspirer des exemples extérieurs et de prendre tout ce qu'il y a de meilleur à Hong Kong, à Newmarket, en Allemagne, en Italie, je ne sais pas. Mais il y a forcément des choses à prendre et à l'appliquer avec les règles françaises, avec les mœurs françaises, avec les habitudes françaises, et de rendre aux courses le côté spectacle qui est inhérent aux courses.
Mais vous disiez aussi, quand on préparait cette émission, que vous avez été frappé par le côté floral, par la beauté des haies, par la manière dont c'est aménagé. Moi, j'étais dimanche à Longchamp, je n'étais pas comme vous à Newmarket, dimanche à Longchamp. Longchamp, il est tout neuf, donc c'est propre, les pelouses sont bien tondues, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment, au niveau floral, qu'il y ait vraiment un effort monumental qui soit fait pour qu'on ait l'impression de se balader dans un très beau jardin à la française.
Moi qui suis quand même un jardinier en herbe, oui. Le cas de le dire.
Spécialisé dans la taille des buirons, on
exactement,
peut dire.
Exactement. Non, mais il y a un décorum floral autour du grand rond de présentation qui est magnifique. Il n'y a pas une feuille morte, il n'y a pas. Toutes les haies sont taillées au cordeau. C'est magnifique. On a envie d'être là.
Guillaume.
Oui, alors au sujet du réceptif dont parlait Robert, effectivement, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. C'est une chose. Alors visiblement, France Gallo l'a pris en compte parce que le hasard fait bien les choses. Mais aujourd'hui, France Gallo a annoncé une évolution de son réceptif et avec un accès unique, un peu privilégié, aux propriétaires le jour des grands prix. Voilà.
C'est pour ça que je disais qu'on pouvait faire confiance à la nouvelle gouvernance, mais il faut qu'ils aillent très vite et très fort dans ce sens-là.
Mais par exemple, vous êtes allé en avion, je crois, vous avez atterri à l'aéroport de Luton pour vous rendre à Newmarket.
Que je conseille à tous les auditeurs.
Ça vous a pas plu l'aéroport de Luton ? Pas vraiment. Pourquoi c'est quoi ? C'était Beauvais-Luton ?
Non, Beauvais c'est très très bien par rapport à Luton.
C'est dire.
Oui.
Non, c'est un aéroport hors du temps. Il faut d'abord, on y accède à pied. On peut pas y accéder en voiture. Oui. On est laissé à peu près à 2-3 km de l'entrée principale. Ensuite, il y a des
queues. Ça aurait été trop long pour Amatuel, 2-3
km. Oui, 2-3 km, c'est pas sa distance. Ensuite, il y a des queues pour le scanning qui sont sans fin.
Disneyland un peu. Oui,
c'est pas le train de la mort, là. Et c'est absolument incroyable. Mais bon, les Anglais sont très flegmatiques et vivent ça très bien.
Mais comme on le sait, c'est pas le Jockey Club qui gère l'aéroport de Luton. Ils gèrent l'hippodrome de Newmarket, ouais. Notamment.
Et là, en revanche, à Luton,
vous êtes arrivé, donc l'aéroport n'était pas super. Oui. En revanche, vous avez été bien traité dès votre arrivée à Luton.
Absolument. Les Anglais, c'est très bizarre parce qu'ils sont quand même très protecteurs de leur culture, de leur pays, etc. Mais ils sont très accueillants avec les étrangers. Très, très accueillants. Et moi, j'aime beaucoup les Anglais.
Et donc, ils sont venus quand même vous chercher dans un superbe véhicule à l'aéroport pour vous emmener au champ de course.
L'organisation...
Je ne sais pas du tout en France, Guillaume. Il faudrait poser la question à France Gallo. Là, je ne veux pas trop m'avancer. Je ne sais pas si les gens qui courent les groupes 1 en France, on va les chercher à l'aéroport avec une limousine et qu'on les amène directement sur le champ de course. On posera la question parce que je pense que nous n'avons pas la réponse. N'ayant pas eu la chance de courir beaucoup de groupes 1 dans notre vie...
Non, mais il est clair que l'organisation des courses à Newmarket a tout prévu et traite le propriétaire étranger comme il se doit. On avait droit à une loge privée, on a eu droit à un dîner, un déjeuner avec une loge qui donnait directement en face du poteau. Les gens sont venus nous chercher avec des voitures extrêmement luxueuses pour nous amener des différents, parce que j'ai pas été le seul à avoir été tous les propriétaires ont été
parce que la particularité de Ramatuel c'est d'appartenir finalement à un grand nombre de personnes. Quand vous voyagez, vous passez pas inaperçu.
Oui, c'est-à-dire qu'on voyage, on est à peu près une quinzaine quoi, à peu près. On voyage en groupe. Voilà.
Ça coûte cher à l'organisateur, quand il faut les recevoir.
C'est le club méditerranéen des courses.
Comme on dit dans Jurassic Park, il se déplace en troupeau.
Oui, il se déplace en troupeau, exactement. Voilà. Mais ça participe aussi de la bonne ambiance.
Mais bien sûr. Et les courses doivent être festives, doivent donner envie. Et il ne faut pas qu'on arrive dans un endroit qui est un peu désertique ou fantomatique, comme parfois quelques hippodromes français peuvent le devenir.
Donc finalement, quand je vous entends en résumé, vous avez passé une bonne journée.
On peut appeler ça comme ça.
Jusqu'à 9 mètres du poteau.
Vous permettez que je m'interrompe parce que je vais prendre un peu d'aspirine pour mon mal de tête.
Alors parlons de l'avenir, parce qu'on ne peut pas penser que Ramatuel finira sa carrière sans avoir gagné un groupe 1. Quels sont les prochains objectifs de la pouliche?
Ben on va en discuter, comme on dit, avec tous les participants. C'est des grosses discussions parce qu'on est beaucoup. Je Je pense que l'objectif, il y a deux objectifs qui peuvent se présenter à nous, c'est soit la route d'Ascot avec la Coronation Stakes, ou la route du Jean-Prat sur 1400 mètres, suivie par le prix de la forêt et éventuellement la Breeders' Cup.
Si vous courez les Coronation, il y a un tournant.
Il y a un tournant, il va falloir qu'elle
se fasse. Si vous courez la Breeders' Cup à Delmar, ah ben alors non, là, vous n'avez pas fini
de tourner. Il y a eu tournant, non, à la Breeders' Cup.
Oui, vous avez pas, ça, il y a la cloche, vous n'avez pas fini de tourner.
1600 mètres, il y a un tournant tous les 200 mètres.
1600 mètres, c'est ça.
Ça va vous rappeler quand vous étiez un jeune journaliste sportif et vous faisiez les 6 jours de Paris, où voilà, il y a la cloche, les tours. Oui, Guillaume.
Et la rallongée, Robert, non, on n'y pense pas.
Non, ça, ma spécialité, c'est quand même les distances avec les chevaux. Et là, je dois avouer qu'on hésite encore sur cette distance.
Donc les bruits qui ont couru, comme quoi vous courriez à une semaine la poule d'essai, c'est n'importe quoi.
Moi, j'aurais bien. Ça m'aurait tenté de faire tout ça, quelque chose comme ça. Ça m'aurait donné plus d'émotions, vu que je ne suis jamais à court d'émotions. On peut toujours y
venir. Mais ça n'aurait pas été raisonnable.
Non.
Ça n'aurait pas été raisonnable. Bon, bah, ceux qui courent la poule d'essai seront rassurés, puisque je pense qu'ils n'auraient pas eu envie d'avoir Ramatuel dans les pattes, quoi qu'il arrive. Donc, vous l'aurez noté, ou les Coronation à Ascot, magnifique course, déjà remportée plusieurs fois, d'ailleurs, par l'entraînement français dans les dernières années. Donc, c'est tout à fait possible pour les Français, peut-être même plus facile que les Guinées pour les Français, si on regarde les statistiques récentes. Et on les court plus souvent aussi, les Coronation, ou le Jean Prat avec le raccourcissement de la distance. Mais cette fois-ci, il faudra courir contre les mâles, ce qui ne sera pas le cas dans les Coronation.
On va tout tenter avec elle. Elle peut tout tenter et on va tout tenter avec elle.
Mais puisque vous nous disiez que votre écurie de groupe est aussi une petite agence de voyage, Royal Ascot, en termes de voyage, c'est plutôt sympathique.
Ah, c'est plutôt sympathique.
C'est au-dessus du Jean Prat à Chantilly, hein, en émotion voyage.
Je ne veux pas faire injure à Nicolas Chambure et le Rat des Trois, qui est sponsor du prix Jean Prat, mais c'est une aventure. Peut-être que le jour où Nicolas Chambure nous forcera à mettre un frac pour venir aux courses du prix Jean Prat, on pourra comparer.
Bon, alors après, pour votre grande agence de voyage, la fin d'année, Breeders' Cup, sympa aussi.
Ça peut être marrant. À Delmar,
donc c'est-à-dire que si le numéro de corde est supérieur au 7, vous pouvez rentrer chez vous, par contre. C'est un peu le problème de Delmar.
Bah, on va tenter.
Where turf meets surf, ou where
surf the turf meets the surf.
Voilà. L'hippodrome de Bing Crosby.
C'est ça.
Ça nous fait toujours rêver quand on dit ça, Bing Crosby.
C'est plutôt classe.
Chasseur de bisons et chanteur de chants traditionnels de cowboy.
L'Amérique
qu'on aime, l'Amérique qui nous fait rêver. Merci beaucoup. Robert, on vous garde avec nous pour finir cette émission. On va parler avec vous, Anne-Louise, d'un autre petit événement international.
On peut parler des 2000 Guinées aussi.
Oui, alors on va parler d'abord de 2000 Guinées, vous avez raison. Je voulais vous envoyer directement vers le Kentucky, mais effectivement, bouclons le sujet Newmarket avec les 2000 Guinées.
Les 2000 Guinées, donc on attendait City of Troy annoncé potentiellement comme le nouveau Frankel, comme l'a été Pina Tubo, Tour de Pernod et beaucoup ces dernières années. Donc malheureusement, ça s'est pas bien passé pour lui. Il a jamais fait illusion, premier battu. Donc la course remportée par Godolphin et Charlie Appleby. Quand ce n'est pas Coolmore et Aiden O'Brien, c'est Godolphin et Charlie Appleby.
Qui se refont un peu la cerise, hein. Parce qu'il y a eu une période de creux.
Ils ont une petite année un petit peu plus compliquée.
Année plus difficile l'année dernière.
C'était surtout aux États-Unis que c'était passé pour eux. Donc là, ils gagnent avec Notable Speech, qui reste invaincu en 4 sorties, qui avait la particularité d'avoir couru 3 fois sur PSF et 3 fois seulement à 3 ans. Donc gagnant des Guinées qui n'ayant pas couru à 2 ans, je crois que ce n'était pas arrivé depuis les années 1930 et quelques. Et un gagnant de Guinée qui n'a couru que sur la PSF, ça n'était tout simplement jamais arrivé.
Je voudrais juste dire une seule chose, c'est que les parcours classiques de préparation ont beaucoup évolué par rapport à ce qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans, où il y avait des passages absolus et obligés pour préparer les grandes courses classiques. Là, on s'aperçoit dans le cas de Notable Speech qu'il a passé, il est passé complètement à côté de toutes les préparations classiques. Et ce qui n'a pas empêché d'être un très très beau gagnant de 2000 Guinées.
Un très beau gagnant. Et on voit que maintenant, les PSF ne sont pas, entre guillemets, des surfaces pour les mauvais chevaux durant l'hiver et qu'on peut les utiliser pour des bons chevaux. Et on l'a vu récemment, même en France, donc avec Castle Lady et compagnie.
Ouais, exactement, pour rebondir sur ce que dit Anne-Louise, la gagnante des 1000 Guinées avait débuté sur la PSF. Et c'est un peu une histoire qui est en train de changer au niveau de la PSF. Et c'est un des enseignements du week-end quand même.
Effectivement. Et ça permet aussi, pour des chevaux qui sont un peu tardifs ou qui ont un problème lors de 2 ans, de rattraper le temps perdu pendant l'hiver, de les mécaniser. Et là, pendant l'hiver, on n'a guère le choix que de courir à la PSF.
Bien sûr.
Ou Cagnes-sur-Mer.
Ou Cagnes-sur-Mer, bien sûr. Notre hippodrome préféré. L'hiver, Anne-Louise, on peut, avant qu'on referme cette cette page 2000 Guinées, je voudrais qu'on demande son avis à Robert justement sur City of Troy, parce que vous n'étiez pas là samedi, mais par contre vous en avez beaucoup entendu parler sur le champ de course. C'était l'archi favori depuis 6 mois.
Je n'ai entendu parler que de lui, et il s'est trouvé que tous les commentateurs anglais que j'ai pu rencontrer, les spécialistes, les professionnels, m'ont dit qu'il était pas dans le meilleur des états.
Très travaillé.
Il avait quand même, à mon avis, comme il devait faire une rentrée directe sur ces 2000 Guinées, il avait dû travailler assez sérieusement à Ballydoyle.
Oui, pour être sûr de gagner et pouvoir lever la triple couronne. Guillaume ?
Oui, ce week-end, on était en masse mondiale pour les parieurs. Et il y avait 750 000 euros en jeu simple sur City of Troy. C'est incroyable. Hein, quand on sait que sur Amatual, il y avait un peu plus de 120 000, quelque chose comme ça.
750 000 sur City of Troy.
Rien que sur City of Troy, oui. À la gagne.
Et ça, c'est le Whirlpool. Hein, donc le on ne compte pas tout ce qui a été joué sur les books depuis 6 mois.
C'est une somme d'argent monumentale et c'est un dégel d'autant plus retentissant.
Oui. Bon, cela dit, les books
ont fait leur année.
Pour les parieurs, oui.
Parce que quand le cheval qu'ils ont vendu depuis 6 mois n'est pas à l'arrivée, ça c'est bingo.
Hein. Ah oui.
Je crois qu'ils ont souffert tout de Cheltenham avec les Mullins et compagnie. Donc ouais. Ils ont vu arriver City of Troy.
Il était temps qu'ils se refassent la cerise, effectivement. On voyage aux États-Unis avec vous, Anne-Louise. On parle de Kentucky,
oui.
Puisque c'était également un grand week-end classique aux États-Unis.
Oui, grand week-end classique du Kentucky Derby, Churchill Downs, 150e Kentucky Derby, et une course, une ligne droite hallucinante. On ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Donc le gagnant, rien à dire, j'ai oublié son nom, il a eu le bon parcours le long du rail, il a pu sortir, ça s'est ouvert à l'entrée de la ligne droite, et puis il a filé au poteau. Et derrière, on a eu une sorte de bagarre entre... Alors, on ne sait pas si c'est les jockeys, les chevaux, entre Sierra Leone et le japonais Forever Young, qu'on aime beaucoup. Donc on aime beaucoup ce petit Forever Young.
Oui, Forever Young, qui, rappelons-le, est un titre du groupe Alphaville, qui a également signé Big in Japan.
Oui, voilà.
Donc, c'est pas tout à fait sans lien avec le Japon.
Et les
on
deux,
fait la blague à chaque fois, Guillaume, je sais. Guillaume fait la moue, mais...
Les deux, en fait, sont plutôt, n'avaient pas forcément un très bon numéro de corde. Après, Forever Young, c'est pas un démarreur à l'américaine, donc perdu beaucoup de terrain au départ. Il est revenu de nulle part dans le tournant pour poursuivre son effort. Sierra Leone, qui, lui, a plutôt besoin de se retrouver vite devant, je crois, qui a un gros défaut. Son entraîneur et son jockey l'ont tous les deux reconnu, c'est qu'il penche naturellement beaucoup dans une ligne droite. Donc les deux se sont appuyés tout le long. Il y a des photos assez impressionnantes au point où on s'est demandé. Enfin, il y a des rumeurs comme quoi Tyler Gaffalione, le jockey de Sierra Leone, avait carrément attrapé la reine de Forever Young pour lui remonter le bout du nez sur le poteau. Ce qui n'est pas le cas, hein. C'est a priori, ça, je pense que sa cravache s'est plutôt coincée, emmêlée dans la reine de son concurrent. Donc,
on aurait pu avoir un gros accident.
On aurait pu avoir un gros accident, parce qu'ils se sont quand même bien cognés les deux. Et surtout, je pense qu'ils vont repartir en réfléchissant sur ce qui s'est passé et sur comment potentiellement les deux ont perdu la course. Parce que s'ils avaient été droits, ça aurait été peut-être.
Et est-ce que les commissaires les ont invités à réfléchir quelques semaines suite à ce comportement dangereux ?
Je ne crois pas. Donc Sierra Leone a conclu un nez devant Forever Young et les Japonais n'ont de toute façon pas lancé, pas fait d'appel, enfin pas de protestation, réclamation ni quoi que ce soit. Donc voilà, l'affaire a été...
Les Japonais sont des gentlemen.
Je pense que oui, la voix du samouraï.
Bon, enfin bref, le Kentucky Derby s'éloigne de plus en plus de nous finalement. On est dans une autre, un peu sur une autre planète quand même.
Oui, c'est une autre planète, mais ça reste toujours. Enfin, ce qu'on parlait de Newmarket. Enfin, voir les images de Churchill Downs, c'est quand même assez incroyable, quoi, de voir 160 000 personnes. Ça, c'est un bon point, c'est que la fréquentation est de nouveau à la hausse pour le Kentucky Derby. Donc, c'est depuis 3 années, je crois. Les enjeux sont à la hausse, les diffusions sur NBC, c'est à la hausse. Donc, c'est assez incroyable de voir ce chaudron de Churchill Downs. Rempli de gens, c'est des images exceptionnelles.
Ce qui est fantastique aussi, Guillaume, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est la merche, comme on dit aujourd'hui, hein, tous les produits dérivés aux États-Unis. C'est vraiment, avec le Japon, c'est les deux grands pays des produits dérivés. Hein, t-shirt, polo, casquette, des choses improbables, ouvre-bouteille, parapluie, ça, c'est une chose, on peut dire que la France devrait quand même essayer de un peu d'embrayer, de proposer des choses... plus qualitative sur les courses.
Effectivement, au niveau du marketing des courses, là, ils ont, à mon avis, tout compris. C'est des produits dérivés de très bonne facture.
Oui, par exemple, quand ils font des casquettes, je me souviens, parce qu'on en avait acheté une au bureau sur le gagnant de Hot Antique, le gagnant du Kentucky Derby, c'était Nike qui avait fait la casquette. Et c'était un modèle de casquette qui vaut 90 euros chez Nike. Donc, c'était pas fait en Chine à la va-vite à 5 euros la casquette, quoi.
Oui, et puis ils arrivent à trouver des signatures aussi hein, pour des t-shirts et tout ça. Enfin, c'est
ils font vraiment des collabs, oui, avec des grandes marques.
Exactement, exactement, avec des artistes vraiment choisis. Oui, enfin, c'est une expérience, comme dit Anne-Louise, c'est quelque chose qui est un peu unique. Et
allez voir sur le site du Kentucky Derby ce qu'on vous propose en polo, en casquette et tutti quanti, et vous verrez ce que c'est qu'une merch voilà, digne de ce nom. Alors, Anne-Louise, on n'est peut-être pas au niveau des Japonais, parce que les Japonais, c'est d'un niveau inatteignable.
Le Turfy Shop est la hantise de mon banquier.
Oui, le Turfy Shop.
On parlait de la Breeders' Cup tout à l'heure, mais le merchandising de la Breeders' Cup qui arrive, il est exceptionnel. Celui de Delmar, c'est incroyable.
C'est vrai, il y a déjà des choses en ligne.
Guillaume a repéré une petite chemisette sympathique, à certainement fleurs, à fleurs, voilà.
Petite chemisette à fleurs, comme ça, le beau temps en Floride, c'est sympa.
Oui, oui, surtout même à Paris, le vivre à Paris, ouais.
Oui, le vivre à Paris, la Floride à Paris. Donc ça, c'est sur le site, c'est à retrouver sur le site de la Breeders' Cup ou sur le site du Delmar Turf.
Non, la Breeders' Cup, vous pouvez y aller, oui, effectivement, il y a un lien vers le merchandising. Ouais.
Très bien, on va aller y faire un tour. Robert, merci beaucoup. Vous savez qu'on dit souvent que la foudre tombe deux fois au même endroit. Donc,
ne tombe jamais deux fois.
Mais si, dans les courses, il faut penser qu'elle tombera deux fois. Donc vous n'avez pas gagné le Morni en 2023. Non. Vous n'avez pas gagné les 1000 Guinées en 2024.
Oui.
Mais c'est pas pour ça que vous ne gagnerez pas le Morni en 2025, ni les 1000 Guinées en 2026.
Oui, il va falloir quand même qu'on commence à creuser. Hein.
Il va falloir continuer à acheter des chevaux.
On gagnera avec des champions cette année, Robert.
Ça peut me faire un petit pansement sur une plaie ouverte.
Je n'osais pas revenir sur ce sujet. Mais puisqu'on y est, et en prenant à témoin nos nombreux auditeurs, histoire d'achever de vous faire tomber de votre piédestal de grand pronostiqueur, Robert, quel est votre pronostic pour le score de Paris Saint-Germain face à Dortmund demain?
Facile, 3-1 pour le PSG.
D'accord, ça veut dire qu'on va être éliminé, Guillaume. C'est pas grave, et ben on espère que ça passera 3-1.
Qui va être éliminé?
Ben Paris Saint-Germain. Si vous pensez qu'on va gagner 3-1, ça veut dire qu'on va perdre 3-1. Donc je prends les choses à l'envers.
Il faut savoir une chose, c'est que Robert était terriblement pessimiste avant le match retour contre Barcelone.
Oui, c'est pour ça
que je dis
ça. Il était certain qu'on allait se faire sortir par Barcelone, et pourtant on est passé. Donc c'est un honte de majesté, parce que moi personnellement je ne supporte pas le PSG, mais comme je suis environné par des fous furieux qui sont fans de Paris, je vous fais des confidences, hein, au bureau de Jour de Galou avec Anne-Louise, on subit pas mal, hein, les fans du PSG.
Oui, ça arrive. Nous on supporte l'OM, bien sûr.
Alors on supporte pas l'OM en l'occurrence, on supporte Clermont Foot, ça existe encore?
Bonne question.
Rien. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci Robert d'avoir accepté de venir vous asseoir dans ces bureaux qui vous sont peu familiers.
Oui, je suis très content de découvrir cet environnement.
Est-ce que vous avez mis votre GPS?
Nous, pas vous. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci.
On vous retrouve cette semaine, évidemment, dans Jour de Galop. Vous nous parlerez notamment du Lyon d'Angers, puisqu'il y a une belle course qui doit avoir lieu au Lyon d'Angers.
Exactement, jeudi.
Cette semaine, le Langeloire Challenge. Pour les amateurs d'obstacles, c'est un marathon.
Et le même jour, la réouverture des jeudis à Longchamp. Et Anne-Louise, visiblement.
Avant les poules d'essai, samedi, deux rendez-vous, il y a le Guiche à Chantilly et bien sûr la Breeze Up Arcana, donc la vente a lieu samedi, les canters ont lieu jeudi, donc je pense qu'on se croisera du côté de Deauville aussi avant Longchamp.
Oui, on va vous chroniquer tout ça dans Jour de Galop, parce que c'est vrai que cette Breeze Up, elle est importante, elle va donner la tendance pour le marché français. Il y a déjà eu une Breeze Up en Europe, hein. C'est pas la première Breeze Up d'Europe, contrairement à la vente d'août qui est la première grosse vente de Hurling d'Europe, mais C'est une Breeze Up qui, globalement, aujourd'hui, est la plus forte d'Europe.
C'est une Breeze Up qui est un peu à part dans le calendrier européen des Breeze Up. Enfin, peut-être que Robert va me dire que je me trompe, mais c'est vrai qu'on est sur des profils... On n'est clairement pas sur des profils de 2 ans pour aller à Royal Ascot. C'est pas ce que vous allez chercher à Deauville, mais c'est une Breeze Up qui a eu des très beaux résultats sur des profils plutôt vraiment classiques, donc que ce soit en France ou aux États-Unis. D'ailleurs, parce qu'on parlait du Kentucky Derby, on peut signaler que Kenny McPeak, qui a fait le doublé Kentucky Hawks, Kentucky Derby, on l'a quand même assez souvent vu, me semble, à Deauville pour cette Breeze Up. Il était venu dans le passé, on ne pouvait pas le louper, c'est une montagne.
Ce que vous voulez dire, c'est que la Breeze Up d'Arcana, on n'achète pas seulement des ans précoces à courir tout de suite, mais on achète aussi des chevaux de course qui sont capables de s'y retrouver au plus haut niveau sur la durée.
Oui, il faut regarder les pédigrés, hein, on a quand même souvent de très beaux pédigrés sur cette brise up qui sortent, enfin qui sont vraiment pas axés vite et précoce. Donc
la brise up d'Arcana est une réussite absolue. Qui est même très très étonnante par rapport à l'environnement dans lequel les courses françaises ont. C'est pas vraiment des courses pour des deux ans, mais ils ont inventé un principe. Ils ont profité du contexte de ce que les Irlandais peuvent apporter à ces brise-up. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que je crois que 90% des choses présentées sont présentées par des Irlandais ou des Anglais, avec des réussites formidables et surtout une tendance absolument incroyable, c'est le sire power américain, avec des pédigrés américains qui vont attirer, non pas les clients américains, mais tous les Bahreïnis, les Koweïtis, les Qataris, les Saoudiens qui courent sur le dirt dans leur pays. Et on va avoir une réussite, je présume, remarquable de cette vente de brise-up.
Très bien, je vous ai taquiné tout à l'heure sur le résultat du Paris Saint-Germain. Je ne me permettrai pas de vous taquiner sur vos prévisions sur la brise-up, car là, vous êtes dans votre domaine de compétence. Merci beaucoup Robert, Guillaume, arrêtez de rire s'il vous plaît, ça n'est pas raisonnable. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous, je pense sans doute après Anne-Louise, les poules d'essai lundi pour un nouvel épisode du talk de JTG Radio.
Oui, épisode classique.
Et d'ici là, portez-vous bien.
Fronte a te.